La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Souvent, lorsqu'on s'intéresse à la société québécoise à l'étranger, deux grandes questions reviennent. Le Québec sera-t-il un jour souverain? Et pourquoi le catholicisme s'est-il effondré aussi brutalement dans les années 60, alors qu'il avait été longtemps hégémonique? Cet effondrement ne cesse de provoquer l'étonnement. Et c'est à cette deuxième question que nous nous intéresserons aujourd'hui à l'émission. À travers elle, c'est tout un pan de notre histoire que nous pourrons revisiter. Comment expliquer qu'une société qui communiait autrefois dans le catholicisme au point d'en faire la religion nationale et qui s'était confiée aux autorités religieuses soit aujourd'hui autant passionnée par une quête de laïcité que certains voudraient transformer quelquefois en politique d'extinction du fait religieux? Sommes-nous aujourd'hui absolument fermés aux faits religieux ou sommes-nous plutôt attirés par les spiritualités exotiques qui ne sont pas marquées au fer rouge de la tradition? Quel rapport les Québécois entretiennent-ils aujourd'hui avec leur héritage catholique en particulier et avec le fait religieux en général? Et, d'une certaine manière, avons-nous déjà eu la foi véritablement? Voilà autant de questions que je poserai aujourd'hui à mes deux invités, Mathieu Bellil, qui est avec nous en studio en ce moment, bonjour, et Jean-François Laniel, qui nous rejoindra dans quelques instants. Le premier, Mathieu Bellil, est professeur au Collège Jean de Brébeuf et membre du comité de rédaction de la revue L'Inconvénient, dans laquelle il publiait en 2015, si je ne me trompe pas, un passionnant article sur ce qu'il appelait la religion prosaïque des Québécois. Le second, que je vous présenterai dans quelques instants, est candidat au doctorat en sociologie à l'Université du Québec à Montréal et membre du comité de rédaction de la revue Argument. Il est spécialisé dans les questions du rapport entre catholicisme et nation au Québec. Alors, Mathieu Bellil, je commencerai avec vous en vous lisant un extrait de l'avant-dernier livre de Jean Larose, Essai de littérature appliquée. Je cite Larose. « Les Québécois sont anti-catholiques. » et anti toute religion, non parce qu'ils sont libérés, mais parce qu'ils ont rompu toute relation avec l'infini, avec la question de la responsabilité des actes, autant devant les vivants que devant les morts, et généralement avec tout souci de l'existence humaine. Que vous inspire une telle réflexion?
Je suis en partie d'accord et en partie en désaccord. D'accord, certainement avec l'idée qu'il y aurait une sorte de rupture ou de... Rupture est peut-être un mot fort, une sorte d'insensibilité ou de désintérêt vis-à-vis des questions qui relèvent de l'infini, de ce qu'il appelle l'infini. Ceci dit, je crois percevoir dans le discours de Larose une sorte de nostalgie que je ne partage pas, dans la mesure où, tout ce que j'ai pu observer et lire à propos de l'histoire québécoise d'avant 1960 ne me donne pas l'impression d'une société qui entretenait avec l'infini un rapport si étroit. La religion catholique, certainement, a dominé, vous l'avez bien dit. Elle a dominé d'un point de vue social, de par ses institutions d'éducation, de santé, mais aussi de par son hégémonie ou sa place dominante dans l'édition et dans la vie des idées. Mais il me semble que quand on regarde les critiques qui sont adressées à la religion catholique, non seulement dans les années 60, mais même bien avant, de gens, d'ailleurs, certains qui sont farouchement anti-religieux, ou en tout cas, qui sont pas reconnus comme étant religieux, je pense à Aquin, mais d'autres religieux, mais réformateurs, comme Dumont, ou alors plutôt tentés par les idéologies ou les mouvements sociaux de gauche, comme Pierre Vadeboncœur. Ces gens-là disent tous à peu près la même chose. Ils voient une sorte de catholicisme de façade, mais sans véritable enracinement intérieur, sans intériorisation marquée. Et même quelqu'un comme Lionel Groulx, qu'on me rapportait récemment, dit des choses assez étonnantes hein, à propos de l'attachement des étudiants qu'il fréquentait dans les années 30 et 40, chez qui il voyait finalement des gens qui étaient finalement assez peu intéressés. Hein. Il dit, au fond, la foi, au Canada français, la foi n'est pas assez une conquête individuelle, disait-il. C'est une sorte de vérité traditionnelle, un héritage de tout repos, transmis presque automatiquement. Donc, si je reviens à Larose, il me semble qu'il y a là une sorte... Alors, avec la distance, peut-être une sorte d'idéalisation... du passé que je ne peux pas partager, même si bien sûr, comme bien des gens, il y a des choses dont on peut s'ennuyer forcément, et des choses qui nous font peur dans le présent.
Je vous entends et cela me fait penser à la présence dans les années 50, mais pas seulement dans les années 50 au Québec, du courant personnaliste. Le courant personnaliste réussit à percer ici chez certains de nos intellectuels, justement à partir du constat que vous rapportez 50 ans plus tard, c'est-à-dire la religion est ici socialement forte, elle est bien ancrée institutionnellement, mais ce n'est pas une religion de l'intime, ce n'est pas autrement dit une foi personnelle. Et cela me mène à vous posez une question à propos du texte que vous signez il y a quelques mois dans L'Inconvénient. Vous posez une question assez fondamentale. Avons-nous finalement déjà eu la foi? J'aimerais vous la poser directement. Est-ce que les Québécois ont déjà eu la foi?
Oui, écoutez, c'est une question... D'abord, c'est une question assez révérencieuse. J'en suis conscient. Et c'est une question qui peut aujourd'hui paraître presque relevée de la provocation, dans le sens où, évidemment, c'est purement spéculatif. Il est impossible de vraiment savoir ou de vérifier s'il y a bel et bien eu, si nous avons déjà eu la foi. D'autre part, je dois le dire, c'est important, je ne parle pas ici en tant que croyant. Je n'ai pas grandi dans un milieu religieux catholique, certainement très sensible par ailleurs à des questions religieuses, mais donc je ne parle pas ici donc en manifestant disons de manière plus ou moins avouée le projet de renouer avec une foi perdue.
Vous donc, ne dissimulez pas là le projet d'une conversion.
Je ne suis non. Écoutez, on peut jamais ne disons jamais hein. On a même vu Houellebecq récemment flirter avec le catholicisme comme esthétisme. Bon, enfin, non, mais ceci dit c'est une question qui me paraît quand même fondamentale. Le degré d'in... et je reviens à la question pour moi du degré d'intériorisation qui m'apparaît comme le vrai problème. Et je dois dire que je le prends cette question-là d'abord d'un point de vue littéraire, d'un point de vue de lettré. J'ai été frappé et à la fois frappé et déçu par le fait que pendant les deux siècles, au fond, qu'a duré la vraie domination de l'Église catholique, puisque à mon avis, l'Église catholique, comme puissance instituée, domine à partir de la conquête.
Oui, et... même de 1840.
Oui, c'est ça. Mais bon, à la conquête, il y a quand même déjà là une forme de...
C'est l'institution disponible pour la nationalité.
Exactement, c'est ça. Et effectivement, après 1840, avec l'échec du mouvement patriote, donc d'options politiques, je pense que là, l'Église prend de la force. Je n'ai pas remarqué, je ne retrouve pas dans la littérature la traduction ou l'expression d'un cheminement spirituel fort. Et évidemment, on me fait toujours la même objection, on me dit « Oui, mais Mathieu, le cheminement spirituel fort, il n'y a pas eu non plus de grandes œuvres littéraires fortes. De toute façon, il n'y a pas eu nécessairement de grands théologiens, il n'y a pas eu de grands philosophes. » Mais le problème, c'est que pendant toutes ces années où on voyait dans la religion le ferment, ou plutôt le socle de la société, on aurait pu s'attendre à ce que le religieux devienne un espace privilégié pour la spéculation, pour la recherche, pour ce que Vadeboncœur appellera dans la ligne du risque, pour une véritable aventure individuelle. Or, la religion comme aventure, comme lancée vers l'inconnu, c'est quelque chose qui m'apparaît finalement assez étranger au Québec. Il faut peut-être remonter à Marie de l'Incarnation pour avoir une traduction de cette religion comme aventure.
Le séguiniste en moi, Maurice Séguin, serait tenté de dire que la conquête a même brisé nos reins spirituels.
Oui.
Mais je me tournerai un instant vers Jean-François Laniel qui se joint à nous.
Bonjour.
Alors, je posais la question à Mathieu Bellil, à partir de son texte qu'il avait publié dans L'Inconvénient. Oui. Est-ce que les Québécois ont déjà eu la foi, véritablement? Vous êtes spécialisé dans les rapports entre nation et religion au Québec notamment, catholicisme et identité. Lorsque vous vous tournez vers ce qu'on pourrait appeler le long siècle canadien-français, en 1840 à 1960, est-ce que vous retrouvez ici, dans notre histoire, quelque chose comme une richesse spirituelle particulière, une préoccupation spirituelle particulière, où l'Église a-t-elle joué un autre rôle, finalement, que spirituel?
Oui, je dirais tout à fait que le Canada français avait lui aussi la foi comme d'autres pays et comme d'autres l'avaient. Je ferai une nuance d'entrée de jeu, hein, c'est-à-dire que la foi se décline pas d'une seule et même manière. La foi, c'est pas simplement la conviction intérieure, un sentiment profond et intime avec Dieu, ou encore une foi intellectualisée, celle de l'érudit, celle du savant, celle de l'exégète. La foi, ça peut être aussi une croyance en Dieu qui se montre avoir à travers des rituels, à travers la participation ou encore à une œuvre collective. Et je dirais qu'en ce sens-là, la foi canadienne-française était peut-être d'abord et avant tout une foi de bâtisseur, hein, une foi tournée vers la construction d'une nouvelle société chrétienne. Monseigneur Maurice Roy, dans les années 50, aurait dit au président de la République française, François Auriol, donc Maurice Roy, après tout, qui a été une grande figure ecclésiastique avant la Révolution tranquille, mais aussi ensuite, hein, donc un passeur, qui aurait dit au président de la République, de la Nouvelle-France à aujourd'hui, la mission de l'Église catholique en terre d'Amérique a été de bâtir une nouvelle société chrétienne. Alors, je vous dirais que non. Certes, les relations entre foi et culture ont été très intimes au Canada français. Ils le sont encore aujourd'hui. J'imagine qu'on en discutera. Autrement, peut-être. Mais une foi tournée vers le projet social n'est pas moins une foi que celle tournée vers l'intériorité.
Mathieu Bellil?
Je dois dire tout de suite une chose, c'est que j'ai bien insisté sur la notion d'intériorisation. Donc, il est évident que, à mon avis, la foi dans ses manifestations les plus visibles et les plus concrètes a bel et bien eu sa place ici. Ma critique ou ma déception, au fond, parce que, au fond, ma déception vient du fait qu'il me semble qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, peut-être, durant cette période, de la logique spirituelle celle de la foi catholique. C'est que, justement, la foi catholique au Québec s'est surtout manifestée dans ses dimensions les plus concrètes et les plus visibles. En soi, c'est rien de déshonorant. C'est rien de, faut pas avoir honte de ça. Donc c'est pas ce que je dis, mais il me semble là quand même que il y a à mon avis la raison pour laquelle l'Église est tombée aussi vite, c'est que finalement une foi tournée vers l'action ou une foi de bâtisseur, j'aime bien cette expression là, je la trouve intéressante. C'est une foi tout de même qui au fond peut changer de véhicule assez facilement
et passer de la religion à la nation, par
oui,
exemple.
Oui, tout à fait. Et à mon avis, c'est pour
ça
très.
La nation, on ne sait trop quoi aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans les années 60, et je pense que ce qu'on assiste, c'est à un transfert. Et à une sorte de renouveau. Et moi, je vois, en fait, au contraire peut-être de ce qu'on pourrait imaginer, que la Révolution tranquille marque une sorte de renouveau, même spirituel, au sens le plus large possible. C'est-à-dire que tout ce qui relève de la croyance, de l'engagement, de la foi même, parce que la foi peut se changer d'objet ou changer de véhicule, elle a trouvé davantage à s'exprimer par la politique, par l'engagement ou enfin par des idéaux sociaux que par le véhicule religieux qui, à l'évidence, était devenu obsolète.
Jean-François Daniel, Mathieu Bellil pose une question importante, je crois. À tout le moins, je constate qu'on nous la pose assez souvent dès qu'on sort des frontières du Québec et qu'on se trouve devant des gens qui sont un peu intéressés à notre histoire, mais pas trop quand même. Pourquoi l'Église, alors je vous prends l'exemple, pourquoi l'Église s'est-elle effondrée aussi rapidement en l'espace d'une décennie à partir de 1960? Était-elle déjà très fragile ou s'agit-il d'un effondrement encore aujourd'hui inexplicable?
Je serais d'accord avec l'hypothèse de M. Bellil selon laquelle la Révolution tranquille n'est pas qu'une modernisation sociale, n'est pas qu'une modernisation politique, mais aussi une modernisation spirituelle, religieuse. Mais ça pose quand même la question de savoir si c'est une élimination du fait religieux dans la société contemporaine ou si c'est une transformation qui la rend plus discrète, moins visible. Si les révolutionnaires tranquilles ont souhaité que la foi soit davantage vécue intérieurement et que se traduise ensuite par des projets sociaux, qu'elle s'investisse dans le politique. Hein, la nation québécoise moderne a longtemps été un projet des intellectuels révolutionnaires tranquilles catholiques eux-mêmes, hein, c'est-à-dire une société plus juste, plus éthique, où le citoyen, mobilisé par sa foi catholique, irait s'investir ensuite dans l'arène publique et la souveraineté en ce sens-là pouvait être un beau projet. Mais c'est pour dire que une fois que la foi se réfugie, si on veut, dans l'intériorité, dans la conscience, ou en tout cas qu'elle n'a pas besoin du support institutionnel qu'est l'Église,
Ça rend notamment la transmission très difficile. Ça rend aussi la pratique moins importante. C'était une grande critique des révolutionnaires tranquilles catholiques. Hein? Quelque part, une foi plus intérieure serait une foi qui se soucierait moins de la pratique religieuse et qui se soucierait moins de la médiation chrétienne ou de la médiation institutionnelle. Quelque part, l'institution était sclérosée parce qu'elle, justement, misait trop sur le rituel comme manière d'être chrétien. Alors, une révolution spirituelle, si on veut, qui met l'accent sur l'intériorité, qui met l'accent sur l'engagement du chrétien dans la société, a un effet direct sur l'institution, un effet direct sur la pratique. Alors, on peut joindre les deux bouts de l'équation.
Mais on parle de l'effondrement de l'Église dans les années 60, qui demeure à tout le moins, un fait, je crois que c'est Denis Arcand qui disait, le fait majeur au Québec depuis une cinquantaine d'années, c'est la rupture des Québécois avec le catholicisme, finalement. La question que je me pose à partir de là, c'est comment expliquer, cela dit, ce retournement complet de la mémoire par rapport à l'Église? C'est-à-dire, lorsque les Québécois aujourd'hui se tournent vers leur passé catholique, qu'en retiennent-ils, Mathieu Bellil?
Écoutez, c'est difficile à dire parce que je dirais, moi j'enseigne au collégial et les étudiants qui ont aujourd'hui 17, 18, 19 ans n'ont à peu près aucune connaissance, sauf évidemment s'ils viennent pour une très petite minorité là de milieux religieux ou croyants. Ils n'ont pas de connaissance. Ils n'ont pas de connaissance, sauf souvent la connaissance d'une institution et d'une religion
un bagage de mauvais souvenirs.
Ouais, bagage de mauvais souvenirs comme forme d'aliénation, comme forme de bon. Alors, ça et donc c'est ce qui m'amène à dire que en fait, ce qui est transmis aujourd'hui, c'est moins la religion que la volonté de renvoyer la religion à l'oubli. c'est une drôle de transmission.
D'une génération à l'autre avec la peur peut-être de la voir revenir. À tout le moins dans la génération boomer, par exemple, quand je regarde le discours, par exemple le débat sur la charte de la laïcité il y a quelques années, je notais qu'un des arguments des partisans de la charte, bah, pas de tous les partisans, mais d'une partie des partisans, c'était « nous avons chassé la religion en 60 et elle ne reviendra pas même si elle se pare du droit à la différence ».
Oui, parce que, alors par exemple, ça avait tout à fait raison, et un des arguments qui était repris, c'était celui du voile du hijab, par exemple, et on disait c'est pas vrai qu'on va accepter que des femmes portent le voile dans l'espace public ou disons les femmes fonctionnaires, etc. Dans les années 60, nos religieuses ont choisi de se débarrasser du voile. On va pas rétablir ce droit-là ou cette présence, effectivement. Ouais. Ça me paraît hautement exagéré.
Jean-François Daniel, y a-t-il une peur d'un retour du religieux au Québec? Parce que vous évoquiez le fait qu'il y a eu un transfert de foi, mais la mémoire du catholicisme, semble-t-il, est une mémoire... Mathieu Bellil dit finalement, ces étudiants peuvent arriver avec une culture très limitée. Ils savent néanmoins, ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'on doit s'en méfier. D'où vient cette méfiance reconduite d'une génération à l'autre, finalement?
Elle s'est bien traduite dans le débat sur la charte. Je suis d'accord avec vous. On pourrait peut-être y revenir aussi, mais ce serait quand même que la moitié de l'équation, hein, parce que la charte avait des prévisions pour le patrimoine catholique, puis la croix à l'Assemblée nationale.
Bien sûr, j'aimais dire de cette charte, que, comme d'autres, qu'elle était catholaïque, mais dans mon cas, c'était un compliment.
Alors, oui, d'accord.
Mais donc, comment expliquer cette espèce de bagage, le fait qu'il y a un bagage de mauvais souvenirs, une interprétation négative, mais... privé d'éléments de référence historique ou tout ça. Comment expliquer cette mauvaise mémoire?
Eh bien, vous le savez aussi bien que moi, c'est-à-dire que la mémoire de la Révolution tranquille, ou plutôt de la Grande Noirceur, comme on aime à l'appeler, hein, est une mémoire où l'Église catholique a porté le fardeau du retard historique des Canadiens français. C'est les Canadiens français étaient, disait-on, économiquement en retard, politiquement... peu friand des libertés individuelles, de faibles démocrates parce qu'ils mettaient trop l'accent sur la dimension collective, pas assez la liberté ou le pluralisme politique. Enfin, toutes les tares canadiennes-françaises ont été ramenées à l'Église catholique qui, effectivement, était la figure, l'institution d'encadrement social. Mais c'est une seule dimension, hein, il faut le rappeler, une seule dimension de l'institution catholique ou de la mémoire catholique qui s'est frayée jusqu'à nous. C'est-à-dire qu'il existe encore aussi une dimension positive au catholicisme,
c'est-à-dire?
À mon avis. Eh bien, c'est ce qu'on a appelé ailleurs avec le sociologue Martin Meunier, hein, un rapport amour-haine à l'Église catholique, ou plutôt, plus précisément, au catholicisme. Il faut rappeler que, quand on pose la question aux Québécois, vous considérez-vous religieux, si oui, de quelle confession? Librement, dans les recensements canadiens, ils répondront, en 2001, à hauteur d'environ 83,5% catholiques. Ils pourraient ne rien écrire. Ils pourraient ne rien écrire. Ils n'ont pas à cocher catholique. Ils l'inscrivent à la main. Les taux de baptême sont encore assez élevés, entre 60 et 70 %. Et tous ces taux-là, évidemment, sont plus élevés chez les francophones. Les mariages, eux, sont à la baisse. Les funérailles catholiques sont encore élevées, mais elles aussi déclinent. Alors, ne serait-ce qu'avec les indicateurs classiques de vitalité religieuse, si on veut, le portrait est déjà plus tempéré. D'un côté, effectivement, la mémoire honteuse, celle d'une église qu'on a dit autoritaire, qui brime les libertés, mais en même temps, une église qui demeure présente pour ce qui est des rituels collectifs et qui demeure présente, je le crois, pour abreuver le Québec de certaines valeurs, une espèce d'éthos. Personnaliste.
Il y aurait une certaine, Mathieu Bellil, il y aurait une certaine tendresse pour le catholicisme encore aujourd'hui?
Sans doute peut-être dans l'espace très privé et intime, une tendresse qui ne s'avoue pas facilement. D'ailleurs, c'est-à-dire que par exemple, les gens sont encore intéressés par cette question-là. Ils sont intéressés par cette question-là, entre autres, vous citiez Denis Arcand, ils sont intéressés par le mystère de cet effondrement. Mais moi, je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, une des choses que je voulais dire, c'est qu'à propos des années 60, c'est que j'ai parlé tout à l'heure du fait que cette espèce d'énergie ou de pulsion de croyance et de foi a connu un transfert du côté politique et social, mais c'est pas tout à fait complet de dire ça. Il y a eu aussi, au sein même de l'espace religieux catholique et de d'autres espaces disons concurrents ou alors en marge du milieu catholique institutionnel, il y a eu là aussi un grand essor du religieux dans les années 60 et 70, c'est-à-dire que quand l'institution est tombée, institution qui au fond était une sorte de garante, qui au fond nous assurait tous collectivement d'être plus ou moins d'aller au paradis à la fin de nos jours parce qu'on était comme tous inclus dans cette immense pardonnez-moi le mot, mais c'est une immense bergerie, où tout le monde allait plus ou moins converger vers le même lieu. Là, quand l'institution tombe, quand les frontières de cette bergerie s'effondrent, et que donc il n'y a plus ce lieu. Alors là, il y a beaucoup de gens qui, à l'échelle individuelle, vont entreprendre une démarche, vont entreprendre de se poser, du point de vue tout à fait individuel, des questions. Et ce que je remarque en littérature, et même en philosophie et en théologie, c'est que les plus... Et ça, c'est à mon avis un des grands paradoxes de la Révolution tranquille, c'est que les plus grandes œuvres d'inspiration religieuse ou spirituelle de l'histoire de la littérature québécoise et de l'histoire de la philosophie ont été écrites par la génération qui a vu l'Église s'effondrer.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Je pense à des gens comme Fernand Dumont. Je pense à Rinan Lanier, du point de vue littéraire. Je pense à Jacques Grandmaison. On pourrait en ajouter d'autres, Fernand Ouellet.
On pourrait vous répondre probablement qu'on se porte à la défense d'un monde lorsqu'on sent qu'il s'effondre.
Peut-être. C'est pas impossible. L'autre hypothèse, c'est que le fait que l'Église, l'institution s'effondre, tout à coup, libère des individus. En littérature, par exemple, il est très frappant que on sait que des auteurs, je vous donne un exemple, un poète exotique qui s'appelle Guy Delahaye, totalement ou presque inconnu aujourd'hui. Guy Delahaye publie de la poésie dans les années 20, 30. Bon, vers tournant les années 30, il a accumulé un journal intime où il témoigne d'un cheminement spirituel mystique. OK? Il décide de son propre chef de ne pas publier ce journal, de ne pas parler de cette expérience-là. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas. Mais c'est très étonnant, au fond, que... Et prenons Saint-Denis Garneau qui a un journal volumineux où il est beaucoup question de religion. La magnifique biographie que Michel Biron lui a consacrée récemment l'a montré. Garneau a un cheminement spirituel, mais n'eût été...
Mais l'Église québécoise traduit mal, finalement, la quête spirituelle des individus parvient mal à se traduire dans l'institution ou la tradition telle qu'elle est vécue ici?
C'est comme s'il n'y a pas d'espace. C'est la seule manière dont je peux l'interpréter. Et je blâme pas nécessairement l'Église. Il faut faire attention. Il y a tout un climat social. Il y a des atavismes. Oui. Une société n'est pas faite que de son institution. Mais il y a quelque chose là qui fait que les gens ne se sentent pas autorisés à témoigner d'un cheminement personnel.
Jean-François Laniel, vous évoquiez tantôt la permanence, appelons ça, du catholicisme dans un Québec qui l'aurait officiellement congédié. Évidemment, vous reviendrez sur ce que vient de dire Mathieu Bellil, mais je me permettrai quand même de vous poser une question qui vous traînera à l'esprit.
Oui.
De quelle manière, après 1960, dans une société déritualisée, les Québécois qui veulent croire ou qui croient, continuent-ils de croire? Mais gardez cette question à votre esprit. Répondez d'abord à je crois, Mathieu Bellil, c'est ce que vous vouliez, si je ne me trompe pas.
Finalement, je pourrais peut-être faire une pierre deux coups.
Ah, vous n'allez pas, cher ami.
Alors, regardons par exemple comment la religion a continué à être transmise après la Révolution tranquille. Hein? Du jour au lendemain, on n'a pas cessé d'enseigner le catholicisme à l'école. Il y avait encore des cours d'enseignement catholique et surtout les écoles étaient encore confessionnelles, mais d'un type de confessionnalité qui est très intéressante à garder à l'esprit. On appelait ça la confessionnalité large ou ouverte. Une confessionnalité où, finalement, l'initiation à la foi, où le dogme serait le plus minimalement présent pour permettre d'accueillir le plus de parcours religieux, de plus d'expériences de la foi. Garder l'enseignement de la catéchèse, l'enseignement du dogme, au minimum, jusqu'à ce que, progressivement, c'est ce que constataient les théologiens en 91, finalement, les visées d'initiation à la foi, c'était complètement mis de côté pour la transmission de valeurs chrétiennes plus larges. Autrement dit, au sein même de l'école québécoise, il y a eu transmission d'un certain éthos catholique jusqu'à aujourd'hui, mais sur le mode que l'on souhaitait, à certains égards, les révolutionnaires tranquilles catholiques, qui laisse énormément de place à la subjectivité, qui laisse beaucoup de place à la diversité des parcours et qui finalement laisse peu de place à l'institution, qui minorise la question du dogme et des rituels. Alors, si on revient à la question de l'effondrement, la réponse est partiellement là aussi. C'est-à-dire, Colette Moreux, par exemple, a fait des belles études Colette Moreux, la sociologue, a fait de belles études dans les années 60-70 elle a mené des entretiens. Et dans ces entretiens-là, il y a une phrase qui m'est longtemps restée à l'esprit. C'est une dame qui expliquait comment elle avait cessé de se rendre à l'église. Elle dit, un jour, c'est le curé qui m'a approché, voyant que je venais fréquemment à la messe, puis il m'a dit, vous savez, madame, vous n'êtes plus obligé de venir comme ça, ni tous les jours, ni toutes les fins de semaine. Le chrétien se réalise d'abord dans la cité, en communiant de ses idéaux et de ses valeurs. La dame a dit, si j'ai plus besoin de venir, c'est vrai que je pourrais occuper autrement mes dimanches.
Alors, je vous entends, vous pardonnerez, cela me fait penser à une partie importante de la critique du milieu catholique français, catholique conservateur, qui accusait quelquefois l'Église, pas seulement, pas au Québec dans ce cas-là, mais en France, l'Église d'avoir elle-même renoncé à son privilège, à son magistère, presque à son autorité, en disant ce n'est plus nécessaire, presque comme si l'Église avait elle-même démissionné de son rôle institutionnel. Est-ce qu'on peut entendre quelque chose, je ne dis pas sur le mode de la critique, mais donc c'est quelque chose de semblable que vous reconnaissez dans la société québécoise?
Oui et non, c'est-à-dire qu'on peut traiter du même phénomène, mais sans parler d'émission. Parce que, comme le disait M. Bellil, il s'agissait surtout d'une utopie. Alors, l'Église ne se disait pas, mais j'abdique face au temps, si au contraire, je fais mien le temps. Oui. Je christianise les valeurs modernes, contemporaines. Je les fais miennes.
Est-ce qu'on peut dire que ça, c'était généralement ce qu'on appelait le discours du christianisme de gauche?
Oui, personnaliste, de gauche, progressiste. Celui qui a triomphé à Vatican II.
Oui, Mathieu Bellil.
Je reviens sur deux choses. Il me semble que ce que j'ai appelé le faible degré d'intériorisation, oui, j'insiste sur cette notion parce qu'elle m'apparaît absolument essentielle pour comprendre en fait la continuité dans la rupture.
Oui.
C'est que aujourd'hui nous traversons au Québec une période je pense de crise où en fait la crise est un mot fort parce qu'en fait c'est pas une crise, c'est plutôt une sorte de désert. On a l'impression d'une période au plan politique par exemple un peu bloquée où rien ne semble vraiment aboutir. Et en fait la crise, c'est la crise du grand projet qui a animé les 50 dernières années au Québec, c'est la crise du projet indépendantiste. Et je soumets cette hypothèse. J'ai peut-être l'air de changer de sujet, mais en réalité, je pense pas. Je vous soumets cette hypothèse. L'espèce de déclin auquel on assiste, un déclin assez rapide et inquiétant, à mon sens, parce que moi, je suis indépendantiste, tient peut-être au fait que ce qui a continué, c'est le faible degré d'intériorisation. Ce qui a continué, c'est qu'au fond, il y a eu, dans les années 60, les années 70, un moment assez particulier d'ouverture, d'exploration, de recherche, mais que finalement, ça n'a pas tellement pris plus racine.
Alors, nous allons revenir sur tout cela, vous pardonnerez, après la pause, dans quelques instants. Okay. En fait, nous poursuivrons cette discussion. Pardonnez-moi de vous avoir ainsi interrompu. Alors, quelques instants, chers amis.
Radio-VM, au cœur de l'essentiel.
Alors, chers amis, rebonjour et bienvenue à nouveau à La Vie des idées pour cette deuxième demi-heure. Je suis avec Mathieu Bellil et Jean-François Daniel. Nous sommes dans une discussion passionnante, je me permets de le dire, sur les Québécois et la religion, une relation compliquée. Et j'ai sauvagement arrêté Mathieu Bellil pour aller à la pause tantôt, donc je lui donne à nouveau la parole. Vous parliez du rapport, finalement, entre le transfert de croyances de la foi religieuse à la foi politique, de la crise du grand projet au Québec depuis 50 ans, de notre rapport finalement à ce grand projet. Je vous invite à reprendre votre réflexion. Nous développerons à partir de là.
En fait, je fais une analogie qui, évidemment, comme toute analogie, est boiteuse et partiellement valable. Mais il me semble que, moi j'entends en tout cas, j'ai grandi, je suis devenu un jeune adulte après le référendum, à peu près au moment où le référendum de 95 a eu lieu, j'avais 19 ans en 95, et ce que j'entends depuis ce temps, c'est beaucoup de gens qui parlent de leur adhésion à la foi indépendantiste sur le mode de la foi perdue. C'est-à-dire, je ne crois plus à l'indépendance du Québec. Évidemment, ça s'accompagne, en plus, il faut l'ajouter, et c'est pas propre au Québec, d'une sorte de désaffection pour le politique en général. Hein. Je ne crois plus à la politique, je n'ai plus confiance. Mais j'entends beaucoup ce vocabulaire de la foi perdue. Et j'ai vu des revirements ou des... J'ai observé chez d'ailleurs des baby boomers, là, des gens qui ont l'âge de mes parents, quoi. Les gens qui ont rejeté le catholicisme ou qui ont été témoins de leurs propres parents rejetant le catholicisme, étaient en train un peu de faire la même chose avec le projet indépendantiste.
Et on pourrait pousser ça plus loin peut-être. Est-ce qu'on risque de voir de nouvelles générations aussi étrangères au projet indépendantiste que les générations qui ont précédé l'ont été au catholicisme? C'est-à-dire tout comme on pourrait dire les boomers ou leurs pas loin, ou même nous, d'une certaine manière, nous ne comprenons pas véritablement la foi de nos pères, la religion de nos pères. De la même manière, est-ce qu'on peut s'attendre à une forme de deuxième moment de grand rejet ou de sentiment d'étrangeté?
C'est une hypothèse forte, mais qui est pas tout à fait, qui est pas farfelue. Parce que quand on regarde les sondages, évidemment, on se dit, tout le monde dans le milieu indépendantiste se dit oui, bon, il y a des fluctuations, ça va et ça vient. Mais ce qui est très, très frappant, c'est que la jeune génération, celle qui a aujourd'hui en 18 et 34 ans, là, on est plus ou moins inclus là-dedans, mais en fait, on est plutôt vers les plus âgés de cette génération-là. C'est cette jeune génération qui semble pas très sensible à la question. Et là, évidemment, faut pas blâmer nécessairement cette génération-là. Le mouvement lui-même a des questions à se poser. Il a ses propres dogmes et parfois on a l'impression d'une nouvelle orthodoxie feinte, comme le disait Vadeboncœur à propos des catholiques de son époque, c'est-à-dire des gens qui, la main sur le cœur, jurent leur adhésion à l'article 1, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, l'article 1 du Parti québécois. Mais on a l'impression que on assiste effectivement à une sorte de désagrégation du mouvement.
Jean-François Daniel.
Moi, je vous proposerais une autre chronologie, si on veut. Hein? C'est-à-dire plutôt que le schéma du transfert du sacré. Hein? Il y a le monde plein ou semi-plein, puisqu'il n'était pas très intériorisé, mais le monde plein catholique canadien-français, un transfert du sacré après ça sur la nation québécoise. Hein? Où les deux sont antinomiques, finalement. Le combat pour la nation québécoise, quelque part, à tout le moins dans sa version souverainiste, devrait s'opposer au catholicisme ou ce qu'il a été. Et si on posait les termes autrement, hein, c'est-à-dire au Canada français, nation et catholicisme allaient de pair dans un certain projet, et même chose après la Révolution tranquille. Souverainisme et catholicisme allaient de pair dans un certain projet. Alors si aujourd'hui on trouve que l'étiolement de la foi souverainiste s'avère, il en est peut-être de même du projet qui a porté les catholiques depuis la Révolution tranquille.
Je vois très bien, mais permettez-moi de reprendre la question sur la question de la foi directement, moins dans ces manifestations collectives que dans ces manifestations plus privées. La quête spirituelle, appelons ça comme ça, oui, n'est pas un élément qui disparaît après 1960. Mais Mathieu Bellil suggérait que la culture catholique canadienne-française n'était peut-être pas celle qui traduisait le mieux cette quête spirituelle. Disons depuis une quarantaine d'années, on peut être en accord ou en désaccord, depuis une quarantaine d'années, lorsque, appelons ça un jeune Québécois, une jeune Québécoise, ont une tentation, une quête spirituelle, j'ai l'impression, mais peut-être est-ce que je me trompe, que la tentation est souvent d'aller vers des spirituels, ce que j'appelle les spiritualités exotiques, les spiritualités étrangères, qui ne sont pas marquées au fer rouge de la tradition. Donc passion pour le New Age, religion composite et bricolée, dogme presque souvent répété, c'est-à-dire comme quoi la spiritualité et la religion n'ont rien à voir. depuis 50 ans la quête spirituelle individuelle. J'entends non pas sur le sens de la croyance collective avec le projet national, mais la quête spirituelle individuelle, quelle forme a-t-elle prise si elle ne trouvait plus l'Église comme véhicule? Mathieu Bellil.
C'est une grande question. C'est certain que l'Église n'a plus le monopole, l'Église catholique après la Révolution tranquille n'a plus le monopole des vocations, n'a plus le monopole de la quête spirituelle. Et en fait, ce que j'ai dit par ailleurs tout à l'heure, je maintiens. Je pense que c'est dans cette, il y a eu une sorte d'espace de liberté, y compris même pour les croyants religieux catholiques, pour explorer leur propre foi. Enfin, j'ose le penser. Ceci dit, effectivement, l'exploration spirituelle a pris d'autres avenues. Les spiritualités orientales, même aujourd'hui, on pourrait dire tout ce qui relève du bien-être, hein, ce qu'on appelle le bien-être. Moi, je regarde pas ça avec un œil trop méprisant. Je vois là une sorte de volonté qui est au fond assez universelle et récurrente de trouver une manière de mieux vivre, de donner sens aux choses. Et ce que je dois voir dans le catholicisme, c'est peut-être encore ce qui rend difficile un cheminement au sein même de cette institution-là, probablement quelque chose comme une difficulté à voir là l'espace pour une quête personnelle. Je ne dis pas que c'est le cas.
Le catholicisme attirerait plutôt ceux qui sont tentés par le dogme, c'est-à-dire ceux qui sont à la recherche d'une foi plus structurée, plus verticale.
Oui. Je pense que oui. Je pense qu'il attire encore un peu, hein, probablement. Je suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à cela, mais peut-être je renverrai la question à Jean-François Lanier.
Oui. Si on regarde surtout le catholicisme français, par exemple, qui a été beaucoup étudié, il reste encore beaucoup de sociologues puis d'intellectuels du catholicisme français. On voit que c'est les mouvements intransigeants, hein, les mouvements plus conservateurs, plus dogmatiques, ceux qui s'intéressent davantage à la tradition de l'Église. Hein, qui récolte le plus de nouveaux adhésions, de nouveaux membres, et qui réussit aussi à mobiliser sa base. On l'a vu pendant les manifestations contre le mariage pour tous, qui réussissent aussi à traduire, si on veut, politiquement ou socialement, leur foi plus conservatrice. Oui.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une relative dissociation de la spiritualité de la tradition ici? Parce que c'est une chose qui me semble... qui me frappe, c'est-à-dire normalement une société, pourvu qu'elle ne soit pas trop mal construite, bon, elle est capable de répondre à l'appel de la cité pour les uns. Hein, c'est l'État, à la rigueur c'est la police, c'est l'armée. Bon. Il y a la place pour la quête intellectuelle, c'est l'université, tout ça. Il y a aussi normalement dans une société, elle est capable de générer sa propre tradition pour ceux qui ont une quête spirituelle et ainsi de suite. À moins que je ne me trompe, et j'ai l'impression que la culture québécoise aujourd'hui ne génère plus vraiment cette tradition, cette pente culture, ce vecteur pour ceux qui ont une quête spirituelle. Si j'ai bien compris, Mathieu Bellil, nous ne l'avons peut-être jamais eu.
Moi, ce serait ma réponse. C'est que je suis pas convaincu que notre société a déjà eu cette époque où la quête spirituelle était tant, disons, à une échelle individuelle, tant encouragée que cela. Ce serait ma réponse.
Jean-François Daniel, je crois comprendre que vous êtes un peu en désaccord.
Oui, ben, c'est-à-dire que je trouve ça un peu dommage qu'on relise l'histoire du Canada français et qu'on mesure la foi qu'il devrait avoir à l'aune de critères, somme toute, assez contemporains, et des critères qui ont mené à la situation, faut vous le dire aussi, qui ont mené à la situation religieuse qui est la nôtre aujourd'hui. Hein, en mettant autant l'accent sur l'utopie de l'intériorité de la foi, on s'est privé de ses soutiens institutionnels, on s'est privé d'une foi collectivement partagée qui encourage et qui encourage les autres à y participer, qui leur donne ce que Colette Moreux appelait les cadres de crédibilité de la foi. Hein. Quand la foi, elle est visible, elle est d'autant plus crédible, on voit ses résultats. Alors, à trop mettre l'accent sur la foi intérieure, on oublie les institutions qui en sont les courroies de transmission. Et faute de transmission, on ne doit pas s'étonner que après ça, la quête elle-même soit réduite à peu de choses.
Moi, je dois dire, là-dessus, je pense qu'on a un point de désaccord, c'est tout à fait correct. Moi, je pense que... J'essaie pas d'opposer les deux. J'essaie pas d'opposer de dire que il faut pas d'institution. Mais ce que je remarque dans l'histoire du Québec, c'est que ce qui a fonctionné à plein régime, c'est la logique de la délégation symbolique. On délègue à d'autres, on délègue à des objets on délègue à des lieux, on délègue à des individus la charge de croire pour nous ou de croire à notre place ou d'incarner dans leur être et leur devenir la foi. Ils croient pour nous. Et là, quand je dis cela, je pense pas seulement d'un point de vue très banal à toutes ces appellations catholiques. Hein. Tout était catholique à une certaine époque. Les groupes de jeunes, les syndicats,
les lieux,
tout le Québec est marqué et il est encore aujourd'hui. Et cette délégation-là, elle marche dans toutes les cultures en passant. Hein. C'est pas propre au Québec, mais au Québec, il me semble que ça a été particulièrement fort. Et je vois aujourd'hui.
On pourrait même voir ça dans la question nationale, puisque vous en parliez tantôt.
Ben oui, c'est-à-dire, au fond, tant qu'il y aura Gilles Vigneault pour nous rappeler que le Québec peut être un pays, on sera tranquille. Au fond, un peu comme aujourd'hui, on continue, et je sais que je caricature un peu, mais à peine, on continue de s'intéresser au pape et à ce qu'il nous raconte. Et ça, c'est très paradoxal pour une société comme le Québec, qui au fond se dit laïque et qui a rompu de manière violente. Hein. J'entendais encore, il y a deux semaines, Lise Payette, qui, à mot couvert ou à peine dans sa chronique du Devoir, laissait entendre qu'il fallait blâmer l'Église si Claude Jutras était devenu pédophile. C'était ahurissant. Alors qu'on sait, tout le monde sait très bien qu'il y a eu des pédophiles dans l'Église catholique. Il ne s'agit pas de nier cela, mais qu'il y en avait au fond autant dans le reste de la société, mais qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile de dénoncer une pédophilie quand elle est à l'intérieur d'une famille, hein, que de la dénoncer quand elle relève d'une institution. Alors là, bon, alors je referme cette parenthèse, mais pourquoi on s'intéresse tant au pape? On s'intéresse au pape aujourd'hui. Bon, bien sûr, c'est une figure politique. Hein? Bon, et en plus, François nous en donne autant qu'on en veut, hein, et même plus. Mais on s'intéresse au fond parce que tant qu'il sera là, il assurera d'une certaine manière à notre place la présence d'une croyance, comme encore aujourd'hui, les églises. Hein? C'est ce qui explique d'ailleurs et c'est tout à fait correct, hein, qu'on veuille pas que nos églises soient toutes transformées en condos. J'en suis. Mais il faut bien voir là que tout cela, tous ces noms qu'on continue, hein, l'école des saints martyrs canadiens, hein, oui. Où on envoie nos enfants, jeunes Pakistanais fraîchement débarqués, qui vont, bon. Alors, tout cela assure ce que j'appelle une délégation symbolique très forte. Je pense qu'au Québec, la délégation a marché à plein régime. Et peut-être qu'en politique, c'est la même chose.
Jean-François Laniel, vous évoquiez tantôt le fait que les Québécois aujourd'hui ont un rapport ambivalent au catholicisme. Évidemment, il y a la mauvaise mémoire de la grande noirceur, appelons ça comme ça, mais il y a aussi quelque chose comme par les baptêmes. Donc, il y a encore un attachement qui ne dit pas son nom, mais qui est présent. On assiste, Mathieu Bellil vient de l'évoquer, dans chaque fois qu'une église dans un village risque de fermer, on assiste à une mobilisation locale. On veut la transformer en fromagerie, on veut la transformer moins en condo. À tout le monde, on n'a pas l'idée qu'on pourrait la transformer en église, mais à tout le moins, il y a une mobilisation pour ce lieu de mémoire et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers ces différentes mobilisations, donc pour les églises comme lieu physique, comme lieu de mémoire, ancré dans le patrimoine visuel, architectural du Québec, et même dans certains débats, la place du crucifix à l'Assemblée nationale, tout ça, ou le drapeau doit-il être redessiné, tout ça, est-ce qu'on peut dire que se reconstruit aujourd'hui discrètement ou à tout le moins de manière un peu complexe, se reconstruit une mémoire au moins partiellement positive du catholicisme comme héritage identitaire?
C'est une bonne question. On voit aussi que à la télévision, dans les films, la place du catholicisme a, sinon une place croissante, en tout cas une place sympathique. Là,
vous pensez à quoi, par exemple?
Tout récemment, le curé Labelle dans la télésérie.
Le formidable personnage du curé Labelle.
Mais voyez, là encore, hein, sa foi n'est pas celle de l'intériorité. C'est celle de l'homme qui bâtit un chemin de fer pour ouvrir... Ouais. C'est l'homme d'action, c'est celui qui veut ouvrir le Grand Nord ou le Nord aux Québécois. Alors, je ne sais pas s'il se recompose quelque chose aujourd'hui, mais il est certain que, à mesure que le peu qu'il restait de cadre institutionnel à l'Église s'effrite toujours davantage, je vous rappelle qu'en 2008, le catholicisme a cessé d'être enseigné, les cours d'enseignement religieux ont cessé d'avoir lieu dans les écoles québécoises. Alors,
d'un point de vue institutionnel, dans les institutions publiques, dans la transmission, le catholicisme n'a jamais été aussi faible. Mais effectivement, dans la conscience populaire, dans les arts, la culture, l'intérêt est persistant, sinon peut-être croissant, à mesure qu'effectivement, il n'y a plus de relais institutionnel. C'est aussi le grand drame.
Plus l'Église s'efface et plus on veut... on se réapproprie certains lambeaux d'héritage.
Oui, ben là, j'irais peut-être un peu dans le sens de M. Bellis, c'est-à-dire que si l'Église a pris en charge pendant longtemps la transmission du catholicisme, si ce n'est plus elle qui peut le faire, eh ben là, c'est la société civile, c'est les culture, artistes, c'est les intellectuels, c'est... Mais je ne crois pas que l'Église a dit son dernier mots pour autant, mais...
Mathieu Bellil.
Je pense que d'abord, la religion est un fait fondamental des sociétés et je serais fort étonné que ça disparaisse. On n'est pas dans ce scénario. Ceci dit, je vais revenir quand même sur un élément. Jean-François Laniel trouve dommage que je relise le passé canadien-français à l'aune du présent. J'accepte en partie cette critique. Il est vrai que je regarde l'héritage à partir du présent et en un sens, mais je ne crois pas, ceci dit, céder au présentisme, c'est-à-dire je n'estime pas le présent supérieur au passé, mais je l'interroge à partir de ce que je sais et de ce que je connais et de ce que je comprends et je l'interroge à partir d'un souci très, très sincère pour moi, c'est celui de voir comment je peux réactiver ou comment nous pouvons réactiver cet héritage-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer? D'autre part, je vais quand même dire ceci, parce que là, il me semble que peut-être Jean-François cède à l'excès inverse en disant, par exemple, que le projet souverainiste émane, ou en tout cas est tout à fait en lien avec le catholicisme. Le projet de la souveraineté,
c'est une thèse audacieuse.
Ça me paraît particulièrement étonnant, parce qu'il me semble au contraire que l'histoire, en tout cas à partir de la fondation du Parti québécois fin des années 60, que l'histoire du Parti québécois a été, bien sûr, le Parti québécois est né en partie des cendres d'anciens mouvements nationalistes, ça c'est évident, ça a été une coalition arc-en-ciel, mais il y avait aussi un mouvement de gauche assez fort, très fort même, qui a considérablement influé sur les destinées du parti. Et je ne vois pas, je vois très très mal comment René Lévesque, Gérald Godin et même Jacques Parizeau auraient pu concevoir qu'ils inscrivaient leur projet d'indépendance collective qu'ils en héritaient du catholicisme. Il me semble que là...
D'ailleurs, dans les premières pages d'Option Québec où René Lévesque se raconte l'histoire du Québec, les pages fondamentales... Quand on entend dire que René Lévesque sera aujourd'hui un nationaliste civique aseptisé, j'invite à relire ses pages d'Option Québec. Il se réapproprie l'histoire à travers deux figures. Il va jusqu'à la Nouvelle-France, il parle du coureur des bois et il parle du cultivateur, mais il y a une évacuation relative de la mémoire religieuse chez Lévesque. Oui. Mais je devine, Jean-François Laniel, que vous voyez néanmoins la présence du catholicisme autrement dans cette histoire.
Oui. Prenons les intellectuels, par exemple, que vous avez mentionnés tout à l'heure, puis que vous mettiez au devant de la révolution spirituelle des Québécois. Fernand Dumont est un souverainiste. Vade Boncœur a écrit l'autorité du peuple. Jacques Grandmaison était lui aussi, je soupçonne, un grand souverainiste. C'est-à-dire que il y a des études récentes, ça vaut la peine de les mentionner. Martin Roy a écrit une belle étude sur la revue Maintenant, une revue de catholiques. Et une revue de catholiques de gauche, progressiste. Et comme plusieurs, j'ai l'impression, de ces mêmes qui ont fait la Révolution tranquille, ils voyaient la souveraineté comme une manière, comme ils disaient, de contribuer à l'épanouissement intégral de la personne. C'est-à-dire qu'un homme est d'abord un homme de culture, disait-il, et donc il fallait pouvoir...
Une forme de souverainisme personnaliste à maintenant.
Tout à fait.
Différence du personnalisme des années 50, qui lui a plutôt donné du fédéralisme.
Qui a effectivement donné du fédéralisme, mais j'ajouterais quand même que, je dirais une autre chose, laïcisme, parce que c'est l'impression qu'on peut avoir parfois, parce que les révolutionnaires tranquilles ont souhaité la laïcisation des institutions québécoises, ça supposerait qu'ils n'étaient pas catholiques, ou enfin tendanciellement athées, et vu que le PQ a porté notamment le projet de laïcisation, c'est lui encore qui a piloté la déconfessionnalisation, on pourrait penser qu'il n'y a rien, mais strictement rien à voir avec la religion, ou avec une certaine idée... du catholicisme. Mais c'est faux. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que pour déscléroser ou vitaliser le catholicisme, pour que ce soit davantage une foi intérieure, il fallait aussi que les institutions catholiques s'effacent pour laisser davantage la place à l'engagement du croyant.
Mais est-ce qu'à trop s'effacer, l'Église catholique ne se condamnait pas à la disparition?
Ce
que vous disiez tantôt, l'Église n'a pas dit son dernier mot.
Non.
Alors, je suis très curieux de savoir quel serait son nouveau mot. Si c'est pas son dernier mot, de quelle manière l'Église peut-elle se réinscrire dans cette société? On la regarde aller Et j'ai l'impression, quelquefois, qu'il s'agit d'une institution que, même si elle peut susciter chez nous un attachement, une tendresse, une mémoire, c'est une institution qui, sauf dans ses figures les plus radicales et contestataires, comme le curé Gravel il y a quelques années, ne rejoint pas le commun des mortels. À tout le moins, les classes, les franges de la population qui s'intéressent à la vie des idées et de la culture. Parce qu'il y a peut-être des lieux, à Québec, en région, tout ça, où l'Église a une plus grande emprise, mais je me trompe. Qu'est-ce qu'elle serait pour vous, autrement dit, Jean-François Daniel, un retour de l'Église dans la cité, si c'est ce que vous évoquez?
Non, ce n'est pas ce que j'évoquais tout à fait. Je ne souhaite ni...
Dans la culture.
Une présence, disons, saine et normalisée du catholicisme au sein de la société québécoise. Hein, que ce ne soit plus simplement un catholicisme honteux.
Mais ce n'est pas deux choses distinctes. C'est-à-dire la présence d'un catholicisme culturel qui serait décomplexé, c'est une chose. L'Église, à moins que j'ai l'impression que c'en est une autre. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de gens aujourd'hui, des athées à temps presque complet, avec des moments de temps en temps de spiritualité, qui ont une mémoire favorable du catholicisme, mais par ailleurs ne prennent pas leur commandement à Rome ou non plus ou à l'archevêché.
Oui, ben après ça, c'est une question d'apologétique. Hein? C'est comment est-ce qu'on amène les gens à s'intéresser à la foi, puis, par exemple, à la partager. Ben, je me souviens, c'est un peu aussi la thèse que je vous présentais, que dans l'histoire canadienne-française, ce n'est pas, par exemple, par des démonstrations savantes sur l'existence de Dieu qu'on amenait les gens à la foi. Ce n'est pas nécessairement non plus en les invitant à participer, puis à déployer librement leur spiritualité, mais c'est beaucoup par ses œuvres. Hein? Les grands auteurs qui ont marqué les Canadiens-Français, c'est des auteurs comme Chateaubriand. Chateaubriand qui publie son beau livre sur le génie du christianisme, et puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben regardez, c'est par les œuvres de l'Église que je vous montrerai sa raison d'être et sa grandeur. C'est par les fruits que je vous montrerai comment juger de l'arbre.
Mathieu Bellil.
Oui, mais en même temps, Chateaubriand, c'est aussi un personnage qui avait, disant cela... cheminement hautement personnel, une appropriation
personnelle. Une existence personnelle. Admirablement tumultueuse.
Oui, bien sûr, et aussi une appropriation très personnelle. Le simple fait qu'un écrivain se permette d'écrire un livre comme Le génie du christianisme est une preuve de cette appropriation individuelle du fait religieux, ce qu'on ne retrouve pas au Québec.
Mais Mathieu Bellil, je vous entends sur ça, et une question me revient sans cesse, puisque nous arrivons vers la fin de l'émission, je me permets de vous la poser. Garneau dit, dans les dernières pages de l'histoire du Canada, que nous sommes un peuple dans un climat trop rude, une existence trop sévère pour se permettre le luxe de l'élégance. Hein, il parle comme ça. Mm-hmm. Je me demande, je me permets de transposer, c'est pas les mots exacts, évidemment, je me permets de transposer ça. Peut-être sommes-nous un peuple trop jeune et à l'existence trop fragile, ou à tout le moins une existence traumatique dès le début avec la conquête et tout ça, pour avoir eu la chance ou l'occasion de la une forme de spiritualité profonde et intérieure telle que vous l'évoquez. Peut-être que ce que Jean-François Daniel nomme la foi des bâtisseurs, qui est peut-être aussi la foi comme élément de base de la nation, mais on la défend, on la protège, mais on ne la chante pas au-delà d'un certain seuil parce qu'il faut d'abord sauver les bases. Est-ce que nous sommes une nation trop jeune ou trop précaire pour avoir eu cette chance de l'aventure individuelle de la foi telle que vous l'entendez?
C'est possible. C'est une hypothèse intéressante qui mériterait d'être approfondie. Au fond, ça reviendrait à dire que nous avions trop de besoins d'absolue nécessité ou nous étions trop préoccupés de notre survie pour pouvoir penser au-delà d'un certain seuil. C'est possible. Et c'est pourquoi mon constat se veut moins une critique, disons, méprisante qu'une réflexion sur la nature précise de ce qu'a été le catholicisme au Québec.
Et vous évoquiez tantôt la possibilité de se réapproprier modérément, avec toutes les réserves possibles, une partie de cet héritage. Je prends tous les mots de modération nécessaires. Que serait pour vous, dans la mesure où ce catholicisme n'était pas fulgurant, dans la mesure où ce catholicisme était rituel, social, pesanteur peut-être, de quelle manière, qu'est-ce qu'on peut se réapproprier de cet héritage selon vous?
Ce qu'on peut se réapproprier.
Si on doit réapproprier quelque chose.
Ben, je pense qu'on n'a pas le choix de se réapproprier. Quand je dis ça, c'est pas qu'il faut redonner une place centrale au phénomène, mais on n'a pas le choix de s'approprier les bases de ce qu'a été cette culture et cette tradition. Mais sur cette question précise de ce qu'il faut faire, ce qui doit être fait, je vous avoue ma grande impuissance,
je vous avoue la
difficulté à comprendre ce qui peut être fait. Il me semble par ailleurs que ce qui s'est développé avec la Révolution tranquille, et ça se tramait depuis déjà un siècle, c'est le développement d'un éthos concurrent à celui de l'Église, un éthos anticlérical qui a tout à coup pris vraiment toute la place et qui aujourd'hui est dominant. L'éthos concurrent, quand je parle d'éthos concurrent, je parle d'un discours vraiment anticlérical, antireligieux. Il est dominant. Il a gagné.
Jean-François Daniel, je vous transforme pour un instant en théoricien stratège du catholicisme québécois à la question que faire.
Bien malgré moi.
Bien malgré vous. Non, mais c'est un geste autoritaire que je pose. La question que faire pour amener les Québécois à se réapproprier la part du catholicisme qu'ils peuvent se réapproprier, ne serait-ce que par un souci de mémoire, de la continuité. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça vous inspire quelques idées?
Oui, c'est ce que j'essayais un peu de suggérer quand même avec Chateaubriand, qui a eu une grande popularité ici, mais c'est-à-dire que prendre le catholicisme parce qu'il a été pour nous, hein. Et s'il a été pour nous bâtisseur d'une société, bâtisseur d'une nation, eh bien, si on veut avoir un rapport sain à nous-mêmes et sain vis-à-vis du catholicisme, regardons ce qu'il a fait de bien pour nous, parce qu'il a fait de meilleur. Et à mon avis, c'est de bâtir une société, lui fournir une armature institutionnelle, lui fournir une armature, à certains égards, intellectuelle, idéologique, et d'en voir les produits peut-être jusqu'à nous, jusqu'au sein de la Révolution tranquille.
On va découvrir le catholicisme comme institution.
Comme institution, qu'on met après ça avec toutes les précautions qui s'imposent, à distinguer du dogme, à distinguer... Enfin, on peut avoir... Commençons peut-être par voir la part que l'Église a jouée dans notre aventure collective, et peut-être que par ce biais-là, on la redécouvrira autrement, et après ça, qu'on l'investira, et on en fera un peu ce qu'on souhaite aussi. Je tiens quand même à dire ça aussi, l'Église se distingue de la secte. Hein? La secte, c'est la rencontre des élus. C'est-à-dire la rencontre des élus et des virtuoses qui sont en fusion. Quelque part, cette image-là, pour moi, d'une foi pure, authentique, intérieure, c'est un peu la foi du sectaire, ou enfin... La foi de l'intellectuel, de l'érudit, mais ce n'est peut-être pas la foi que tout le monde doit vivre. La foi de l'Église, c'est celle de la diversité qui peut inclure différentes voies. Alors, commençons par...
Alors, il nous reste quelques instants, Mathieu Bélé, je me permettrai une toute simple question. On dit Chateaubriand, imaginons que vous avez des étudiants devant vous, ça vous arrive souvent, un auteur pour renouer avec le catholicisme sur le plan littéraire qui vous inspirerait?
Je pense qu'un des meilleurs, ce serait Bernanos.
Très certainement.
Georges Bernanos. Mais paradoxalement, je dirais qu'un de nos plus grands mystiques, c'est probablement Vade Boncœur, qui a pas écrit une seule ligne vraiment sur la foi religieuse. Je plaiderais pour un regard apaisé, un rapport apaisé en
à
tout cas.
À la fois. Alors, ouais, sur cette évocation de Chateaubriand, de Bernanos et de Vade Boncœur, chers amis, je vous remercie infiniment de votre présence ici aujourd'hui. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un débat qui sera tout à fait surprenant. Faut-il réhabiliter Maurice Duplessis avec Martin Lemay et Lucia Ferretti? Chers amis, merci encore et à la semaine prochaine.